Le dernier Corse. Une nouvelle inédite de Jacques Mondologne pour le magazine Qui. Le 14 août, 9h. Je me suis décidé à tenir ce journal parce que je vais mourir dans les jours qui viennent. Je ne suis pas enfermé dans une cellule attendant l'heure de mon exécution et personne ne m'a révélé que je suis atteint d'un mal incurable et foudroyant. Pourtant, je suis condamné à mort car, ayant refusé d'embarquer avec les autres, les bombes incendiaires qui ravagent méthodiquement l'intérieur de la Corse vont m'anéantir. Déjà le village de Zonza, où je m'étais réfugié, est en train de se liquéfier et les hameaux des alentours s'effondrent sous l'action du napalm. Les pierres en train de fondre forment une coulée de lave sur la terre carbonisée et parfois un toit éclate comme une poterie oubliée au four. Bientôt l'île de Beauté sera rayée de la carte et ce n'est pas un cliché qui me vient sous la plume pour décrire l'implacable destruction des maisons et des paysages entreprises par l'armée et décidée par le pouvoir. On peut en effet constater que la végétation a disparu et que le maquis s'est consumé. La montagne verdoyante, dont nous étions si fiers, n'est que poussière, au point qu'on peut se demander s'il y avait des forêts plantées dans ces massifs et ces mamelons. Les châtaigniers et les pins célébrés dans les dépliants touristiques ont été rasés, ensevelis, sont retournés racines. Maintenant que les fumées âcres et noires des incendies se sont dissipées, on peut évaluer le désastre et assister aux manœuvres d'embarquement qui ont commencé dans les principaux ports de l'île. D'où je suis, me dirigeant vers les cimes de Bavel par le GR20, je peux distinguer à l'ouest le golfe de Valinco et à l'est le golfe de Porto Vecchio, qui grouille d'animation. On aperçoit nettement les navires affrétés par l'évacuation de la population, toute cette armada grise qui sillonne la mer limpide et accroche une dentelle blanche au rivage calciné. Si je ne savais pas que les ports de Propriano et de Porto Vecchio ont été épargnés par les bombes incendiaires pour attirer mes malheureux compatriotes vers leurs cages flottantes, je pourrais dire que le spectacle auquel il m'est donné d'assister ne manque pas de superbe. Ce n'est pas, hélas, un son et lumière, une évocation grandeur nature d'une bataille barbaresque que les autorités ont mise en branle pour amuser la communauté internationale. Il s'agit de la déportation réelle de 200 000 personnes qui se réalise sous mes yeux et que nul ne peut empêcher. Par référendum, les Français du continent ont affirmé que la Corse leur causait trop de tracas et qu'elle ne méritait plus d'être française. Et le Parti de la Flamme, quand il est arrivé au pouvoir, a décrété qu'il fallait s'en débarrasser. L'État aurait pu nous abandonner à notre sort, couper les amarres, mais pour se venger des attentats, de notre chronique désobéissance aux lois de la République, il nous a refusé l'indépendance et a décidé d'appliquer sa politique de terre brûlée pour nous chasser de notre terre et nous disperser aux quatre coins de la Méditerranée. Sous prétexte que nos ancêtres sont des morts, les dirigeants du Parti de la Flamme nous expédient arbitrairement vers le Maghreb et l'Arabie, prenant le risque d'un affrontement militaire avec ces pays qui sont dans l'impossibilité de nous accueillir et n'en ont pas, évidemment, le désir. Seule l'Algérie a fait savoir à notre gouvernement qu'elle ouvrirait ses frontières aux émigrants, mais à condition qu'ils ne descendent pas de pieds noirs, qu'ils soient de sexe mâle, majeurs et en bonne santé, ce qui, après traduction, signifie qu'ils devront s'engager dans l'armée algérienne pour combattre les rebelles islamistes. Et leurs femmes, enfants, parents, ils seront refoulés. Vers où? On ne sait pas. Demandez à vos voisins. Se sentant visés et en souvenir de la domination génoise, l'Italie a répondu qu'elle était d'accord pour prendre en charge quelques pincées de Corse. Des quotas de réfugiés sont établis en fonction de l'origine des patronymes et c'est à qui dira que la langue corse et l'italien sont deux sœurs jumelles. Quant aux exilés qui lorgnent vers la France, vers leurs parents installés sur le continent, seuls quelques privilégiés auront l'autorisation d'accoster sur les rives françaises. Chaque membre de leur famille d'accueil doit prouver qu'il réside dans l'Hexagone depuis 3 générations, minimum, pour avoir un certificat de citoyen français et pour ce faire, doit se présenter devant la commission de révision des naturalisations. Cette rigueur bureaucratique, digne de Vichy, transforme mes ouailles en juifs de la dernière guerre. Nul doute que l'État manœuvre pour les rejeter et que sur leur bateau, elles vont revivre la cruelle aventure d'Exodus, sauf qu'il n'y aura pas cette fois de terre promise. 14 août, 14 heures. Le sol brûlé, la pierre pelée continue à cuire. La vallée avec ses flancs rabotés semble tressaillir sous la couche d'un vernis vitrifiant. La chaleur est éprouvante, elle cloque l'atmosphère, et j'ai eu l'impression tout le long du sentier qui me conduisait au refuge que mon sang était en train de bouillir. C'est seulement dans la grotte de la Vierge Marie, encore fraîche, à l'abri des émanations de napalm, que j'ai pu respirer normalement. Je bénis le ciel de m'avoir donné la force de récolter assez d'argent pour transformer ce sanctuaire en bunker de béton capable de résister provisoirement au feu et à la persécution. Et au fond, je ne suis pas mécontent d'avoir un peu menti aux donateurs. À l'origine, le produit des quêtes, de la souscription, était destiné à construire un petit musée enterré dans le rocher pour que les pèlerins, après la procession qui clôt les cérémonies du 15 août à Bavel, puissent communier avec la Vierge Marie à travers le recensement de ses bienfaits insulaires. Le musée s'est agrandi pour devenir un lieu de recueillement et d'hébergement, de commerce, on dit les puristes. Car le gîte d'étape et les souvenirs à emporter sont payants. Toujours est-il qu'il est pourvu de moyens de communication modernes, télécopies, téléphones cellulaires, liaisons satellites et d'un système de climatisation à la pointe du progrès, alimenté par toutes les sources d'énergie d'usage, panneaux solaires, batteries, propane. De quoi supporter un siège si le refuge n'était pas si accessible par le GR20 et s'il était pourvu de réserves de vivres. À la réflexion, c'est mieux ainsi, car je suis prêtre. Et je n'ai aucune disposition pour jouer les forcenés. Mon seul projet, ma seule ambition, c'est d'envoyer un message aux générations futures, ayant la naïveté de penser que mon témoignage est capital et ayant l'orgueil de croire qu'il survivra au crime, à l'anéantissement de la culture corse, l'histoire des peuples et des civilisations m'ayant appris qu'il y a toujours des bouts de documents, des morceaux de mémoire qui échappent aux bourreaux et aux barbares. Pour cela, il est essentiel avant de mourir que mon correspondant, le père Bartoli, au Vatican, reçoive ces notes et les fasse circuler au sein de l'Église qui saura, dans les plus brefs délais, je l'espère, les utiliser pour alerter l'opinion publique internationale. Le fax branché à mon portable est prêt à émettre. Les essais de transmission effectués hier ont été concluants et le père Bartoli a mis dans son appareil un rouleau neuf, impatient de lire en temps réel ma prose de martyr. Mais par où commencer ? Malgré mon goût pour les livres, les archives, les collectes qui me viennent du séminaire, je n'ai jamais osé coucher mes états d'âme sur le papier. Quand on est prêtre, on écoute son prochain, et toutes les paroles entendues, les secrets, la misère captée à travers la grille du confessionnal, bloquent le désir de s'épancher par écrit. Certes, le prêtre se confesse à d'autres prêtres, mais il juge pervers l'acte d'introspection. Mettre son cœur à nu devant soi est une façon de dissimuler son « moi » à Dieu. Et même si Dieu voit tout, le prêtre semble le défier par l'écriture car il s'arroge le droit d'avoir une autre personnalité. En réalité, écrire un journal intime pour un prêtre est un péché. Donc, par où commencer ? Je pourrais remonter à ma jeunesse, à mes premiers pas dans la foi, à ma passion pour le Christ, à la jouissance de le servir, au hasard qui a voulu que je m'attache, après mon ordination, à une paroisse corse, celle de Santa Lucia. Bref, décrire le destin du prêtre. Mais ce serait trop long à raconter. Perdre du temps, vu les heures qui me sont comptées. Toutefois, il me semble important de relater brièvement quelques étapes de mon existence, afin que mon témoignage ne demeure pas abstrait. Le dernier Corse ne s'est pas barricadé dans son refuge par accident au gré des circonstances. Ma décision découle de mon parcours. Mon sacrifice s'explique par mon passé. Je m'appelle Pascal Geronimi. Mon père est corse et ma mère anglaise. Elle se nommait Dorothy Winkens, arrivait des Cornouailles lorsqu'elle a rencontré mon père, représentant en carte postale dans la librairie de la Marge à Ajaccio. D'après ce que j'en sais, elle recherchait des documents sur Paoli pour sa thèse et si la Corse avait été une colonie anglaise, quand elle est tombée sur lui. Et bien qu'après son mariage avec mon père, l'ouvrage d'histoire qu'elle préparait ne vit jamais le jour. J'ai grandi à l'ombre de ses commentaires sur cette période si excitante et controversée. Plus tard, elle m'a fait part de ses sentiments sur les héros de l'époque. Et balayant les siècles, elle était capable de cerner le comportement du peuple corse depuis l'Antiquité face à ses multiples envahisseurs. L'invasion maure n'a pas dû être de tout repos. Les Génois, avec leurs sabres et goupillons, c'étaient pas des petits saints. Les Français, lorsqu'ils sortent de leurs frontières, n'y vont pas de main morte. Finalement, il vous aurait fallu les Anglais qui sont moins cruels, disait-elle avec ironie, lorsqu'elle s'amusait à asticoter mon père qui s'affirmait d'abord français. C'est avec ces pinsouts du continent que nous nous entendons le mieux. Après tout, ce sont des latins, réagissait mon père qui se lançait dans un discours moucheté anti-anglais. Oh, je sais, beaucoup de choses séparent nos deux nations, mon chéri, ajoutait ma mère. Exemple ? Demandait mon père candidement. Alors, sentant qu'il était disposé à goûter les différences et sous couvert de persiflage conjugal, elle les analysait à la lumière des conquêtes des deux empires qui s'étaient partagé le monde. Le colonialisme anglais, d'après elle, avait la volonté de ne pas se mélanger aux indigènes. Le colon britannique mettait des gants, des capotes lors des rapports avec les peuplades qu'il avait sous sa coupe. Le colon français, lui, au contraire, souhaitait se mélanger aux indigènes. Il veut coucher, il veut toucher. Le colonialisme anglais humilie ce qu'il exploite par le mépris. Le colonialisme français humilie ses subordonnés en entretenant un climat de promiscuité, avançait-elle. Je fais allusion à ma mère, car son argumentaire m'a servi lorsque j'ai cru aux sirènes des autonomistes et que je me suis engagé à leur côté, militant dans des comités de soutien, défilant dans les rues, faisant le coup de poing. On me rencontrait dans les manifs, exprès en soutane, la bouche collée à un mégaphone, réclamant la libération des prisonniers du front et dénonçant la domination française. J'avais alors la trentaine, et je ne peux passer sous silence cette étape de ma vie, car je me suis converti à la violence, et dans la fièvre de la violence, j'ai croisé l'amour sensuel. Marie, ses yeux de noiraude, sa jeunesse sauvageonne, toutes ses heures d'ivresse en sa compagnie, toutes ces heures de découverte de la femme, ces nuits, sperme et poudre, Maria était laborantine. Ces nuits de caresses et de cavales, j'appelais le danger pour entretenir l'érection. Ces nuits où j'ai pu me dire que j'étais un homme après tant d'années de célibat. 15 août, 2 heures du matin. J'ai repensé à Maria. Et je me suis masturbé. J'écris cela sans honte, car je ne me soucie plus du problème de l'impureté. Les prêtres doivent faire vœu de chasteté pour accomplir leur mission, j'en conviens. Mais la souillure sexuelle n'est pas une malédiction. Et j'en veux à mes directeurs de conscience, aux aumôniers du séminaire, d'avoir toujours mis l'accent sur les pulsions sexuelles et les techniques de soulagement. Dans la pénombre du confessionnal, la première question que pose le prêtre qui confesse son alter ego a trait à la masturbation. Une façon de dire « Comment tu te tiens, toi ? Comment tu t'arranges ?» C'est le seul aveu qui coûte au prêtre et duquel dépend le respect que les autorités ecclésiastiques auront de vous. « Hérétique, renégat, prêtre terroriste » sont des étiquettes sur mon front qu'on a pu me pardonner. Douter de Dieu ? Ne plus avoir la foi, tenir des propos scandaleux, faire de la politique, ne choque pas votre confesseur. Votre plaisir solitaire, oui, car vous osez redevenir un être biologique autonome de l'univers. D'une main, vous reprenez votre liberté. Écrire un journal intime et se masturber sont donc deux activités incompatibles avec le statut de prêtre. 15 août, 10 heures. Les hélicoptères de l'armée survolent mon repère, et « repère » ici n'est pas loin de signifier « repère » et « R.E. » car la grotte de la Vierge Marie est probablement dans le collimateur de leur lance-missile. L'état-major ayant recensé les sites où la résistance était possible. Le maquis corse est riche en cachettes. La montagne a toujours représenté un abri pour les rebelles. Les fameux bandits corses ont pu narguer la maréchaussée grâce aux reliefs qu'ils connaissaient comme leur poche. Mais la Corse était habitée. La population pouvait héberger ceux qui s'étaient mis en rupture de société, les nourrir, subvenir à leurs besoins, Et à présent que l'île est déserte, dépouillée, pulvérisée, un astre mort, aucune aide ne peut secourir les réfractaires. D'ailleurs, je doute, après les incendies, l'incroyable bûcher, la formidable combustion qui a vidé la région de son air, qu'il y ait des rescapés. Les rescapés ont été regroupés devant les bateaux, ils font la queue devant les passerelles, ils pleurent leur paradis perdu, et le spectacle désolant que je peux contempler de mon repère m'assure que je suis le dernier Corse de l'intérieur encore en vie. Pourtant, au début des opérations crématoires, j'avais espoir que nombre de mes concitoyens réussiraient à passer entre les flammes. La pierre des maisons, le granit séculaire était pour moi symbole de protection, des matières anti-feu. Mais, ayant eu au bout de mon portable mes amis moines des monastères, j'ai vite déchanté. Couvent, chapelle, église étaient la cible des exterminateurs. Un abbé de Corbar, affolé, joint au téléphone, me confiait que lui et les fidèles qu'il avait rassemblés étaient bombardés sans pitié. Des haut-parleurs les sommaient d'évacuer les lieux saints, de monter dans les camions militaires qui stationnaient près de là. À tous, on leur interdisait d'emporter un bagage. Direction la mer, le port le plus proche. D'autres correspondants m'ont également informé que des chasses à l'homme étaient signalées un peu partout. Barrages hydrauliques, grottes, tunnels de l'Altaroc et de l'Hospédal étaient fouillés de fond en comble. Des réfractaires se terrent peut-être encore dans des galeries souterraines, des boyaux, des canalisations. Mais ils finiront comme moi, en fumée, réduits en cendres. Je maudis le parti de la flamme, qui organise notre expulsion, qui condamne mes compatriotes à voguer sur la mer hostile, à la recherche d'une terre d'accueil qui ne sera qu'un mirage. Car au mieux, ce qui attend les familles qui auront survécu à ce convoi de la mort, c'est un camp d'internement dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée. Des tentes dressées à la va-vite par des soldats débordés, des gardes chiourmes, impuissants. Je maudis cette France rancunière, ivre de génocide. La France signe là un crime contre l'humanité, se rend coupable d'une catastrophe écologique et la punition ô combien disproportionnée qu'elle nous inflige pour notre mauvaise conduite la place au banc des nations pour un millénaire. Le père Bartoli, à la lecture des premiers feuillets que je lui ai envoyés par télécopie, a saisi son téléphone pour me faire partager ses réactions. C'est le passage sur la masturbation qui le gêne. Mes réflexions sur le sujet ternissent mon image de martyr et le Vatican ne sera pas content. Ce n'est pas très exploitable pour une campagne dans les médias, a-t-il estimé, sans pour autant me jeter la pierre. C'est un secret des prêtres, comprenez-vous? Ça doit rester entre nous, a-t-il ajouté. À part ça, comme il a une oreille qui traîne dans les couloirs et les antichambres de la politique, et en ce moment le Vatican est assailli par une noria d'ambassadeurs pour que le pape tente une démarche auprès de la France, le père Bartoli m'a confié les derniers bruits qui courent concernant le sort de la Corse. « Il peut arriver quelque chose de pire encore » ai-je demandé. « Oui, il est question de la morceler. Fragmenter, oui, fragmenter. C'est le mot qui revient souvent. » On s'est quitté, sans avoir pu tirer au clair ce qui pourrait être une métaphore. 15 août, 16 heures. J'ai entendu la terre trembler. Peut-être un nouveau bombardement? M'aurait-on repéré après le coup de fil du père Bartoli? Hypothèse vraisemblable. Les tables d'écoute de l'armée sont capables d'intercepter toutes les communications, et cela fait longtemps que les téléphones cellulaires n'offrent plus aucune protection. Si c'est ainsi, pourquoi un commando ne m'est-il pas tombé sur le rable dans les minutes qui ont suivi? Quelques soldats suffisent pour me neutraliser, ils n'ont qu'à faire sauter la porte blindée du refuge, et je serai leur prisonnier. Ils peuvent même tirer une roquette au napalm dans le musée s'ils ont l'intention de me tuer, cette fois dans les profondeurs. N'en pouvant plus d'être reclus, d'imaginer de nouveaux ravages, j'ai franchi le portail et j'ai rampé vers le tas de cailloux qui barre l'entrée du refuge. La terre ne fait que vibrer, et cette fois je comprends pourquoi. La montagne s'affaisse, je découvre l'abîme, des abysses vertigineux, des puits sans fond qui se remplissent de liquide et fusent comme des volcans. La Corse a été minée, des bombes, peut-être une bombe spéciale est en train de la disloquer, de la faire éclater en mille morceaux, de la fragmenter, comme disait le père Bartoli. Oui, c'est peut-être une bombe atomique, car une grosse bulle ressemblant à un champignon, vertier, caveau, s'échappe d'un cratère. Soudain, un grand craquement, La partie occidentale de la Corse bascule, s'enfonce dans les eaux. L'inondation se fraye un chemin dans la vallée du Risanèse, poussant un vent de fournaise. Je sens le GR20 glisser. Le refuge s'abaisse, me donnant à découvrir la partie centrale qui se noie. La montagne de Lincundine s'effondre. Les zones de fracture se réveillent. Le sillon de Corté avale la Castanich. Le nord plie à la hauteur des Agriates. Et, fantastique vision, le cap Corse se décroche du socle. On dirait une immense caravelle dérivant sur la mer. Dans son sillage, un archipel, des éclats de terre encore émergés qui brillent comme du verre. Tout se délite, se désagrège, se creuse à une vitesse folle. Tournant mon regard vers la partie orientale, je constate qu'un raz de marée se rue sur la plaine et est en train de la submerger. Au loin, sous le ciel d'azur atrocement pur, l'armada des bateaux palpite. Mes frères, que Dieu vous garde en vie. Dans la grotte qui semble absorbée par un gouffre, le béton se fissure. Un bloc de gravat tombe non loin du fax. Je glisse dans l'appareil cette feuille de papier, sans doute la dernière. Tandis qu'elle se déroule, j'y consigne tout en direct. Continuez. Racontez jusqu'au bout. Restez en contact avec le père Bartoli jusqu'à la mort. Oh mon père, quel funeste symbole. La Corse plonge le jour de l'Assomption. Le dernier Corse, une nouvelle inédite de Jacques Modologne pour le magazine Qui, lu par le comédien Christian Rouspigne. Réalisation Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.